Bonsoir, contentieux électoraux, plusieurs candidats déclarés élus par la Commission électorale nationale indépendante ont vu leur mandat invalidé au profit des autres. C'est donc 32 députés qui sont invalidés au profit de 32 autres, ce qui découle des arrêts de la Cour de justice rendus publics mercredi dernier. 24 avril 1990 et 24 avril 2012, cela fait 22 ans que le processus de démocratisation de la RDC avait été déclenché par le président Mobutu. Tel est le thème que vous propose pour la presse de ce soir. Quoi qu'on soit journaliste et participe à ce débat, il s'agit de Bélard Mouy, il est éditeur du journal La Renaissance et la Nation, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Bélard Mouy.
Bonsoir Mouy.
Paul Diakité, le directeur des communications au studio radio-télévision Sango Malamu, et mettant depuis Kinshasa. Bonsoir Paul Diakité.
Bonsoir Limaté.
Et Léon Moinzé, il est rédacteur en chef de la radio communautaire Libre d'écologie au Katanga. Bonsoir Léon Moinzé.
Bonsoir, bonsoir Jim.
Deux députés invalidés au profit de 32 autres, 22 ans de la démocratisation de la RDC. Écoutons cette revue de presse que nous présente Alain Hiron pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes.
Nous ouvrons cette revue de presse avec l'Observateur. Le quotidien signe à propos des législatives 32 députés invalidés par la Cour suprême de justice. Le journal rapporte que dans son arrêt rendu mercredi dernier, la Cour suprême de justice a invalidé les mandats de 32 députés déclarés élus par la CENI. Pour sa part, la Prospérité revient sur ce sujet et relève toutefois que dans le tableau synthétique de la Cour publié hier, 20 circonscriptions électorales ont été sensiblement revisitées par les hauts magistrats de la Cour, notamment celle de Kalimi, Malimbankoulou et Kabalo dans la province du Katanga, pour ne citer que celle-là. 24 avril 90-24 avril 2012, cela fait 22 ans que le processus démocratique a été déclenché en RDC parce que le président Mobutu. C'est le deuxième thème de cette revue de presse. Cette célébration coïncide avec la lettre de Gèbre au premier ministre Matata Ponyo. La postérité signe déficit démocratique. Gèbre interpelle Matata Ponyo. Le quotidien note que Gèbre voudrait surtout que Matata Ponyo prenne l'engagement solennel de redorer l'image démocratique du pays permis par des atteintes souvent graves et répétées aux droits de l'homme, parmi lesquelles la liberté de presse, corollaire du droit à la liberté d'expression et du droit à la liberté d'information. Parmi les autres sujets d'actualité, le potentiel s'intéresse à l'Assemblée nationale avec ce titre, report de la composition des commissions permanentes. Le journal écrit dans ses pages intérieures que le bureau de la Chambre basse du Parlement n'a pas eu le temps matériel de procéder à la répartition des députés par commission permanente. Le potentiel note que le délai de 48 heures accordé aux différents groupes parlementaires constitués afin de parvenir les listes de leurs délégués dans les commissions permanentes a expiré depuis le lundi 23 avril. Le potentiel informe tout de même de la formation de 3 nouveaux groupes parlementaires. Composition du gouvernement, l'avenir titre Matata Ponyo consulte. Au contraire d'ajouter que la formation du gouvernement n'est plus qu'une question d'heure. Revenons sur le premier tour de la présidentielle française de dimanche dernier, le phare à son tour s'exclame « France, Hollande devance Sarkozy ».
Merci Alain Hiron pour cette revue de presse, ainsi qu'au matière de l'arme bouillie. Vous êtes éditeur du journal La Renaissance et la Nation, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la permutation de certains militaires étardessés au Kasaï occidental. Ces militaires étaient jusque-là à Masisi au nord.
Oui, exactement. Vous savez, le Nord Kivu a cette particularité qu'il y a certains militaires qui, pour plusieurs raisons, ne voulaient jamais déplacer cette province-là. Je crois que c'est une première quand même, parce que finalement, on ne peut pas avoir des militaires qui sont inamovibles uniquement dans une province donnée. Ce n'est pas compréhensible. On ne peut pas développer un esprit de corps de cette manière-là. Donc je crois que c'est un premier pas, il faut facilement qu'ils fassent la Kananga, on peut les brasser aussi, il faut qu'ils se sentent à l'aise partout où ils vont être. Bien entendu, il faut toujours essayer de rencontrer les raisons, les craintes qu'ils faisaient, qu'ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas en fait se déplacer à travers le pays. Il faut vraiment leur permettre de se sentir qu'ils sont à l'aise partout où ils peuvent être unités.
Paul Jacquesté, vous êtes directeur de communication au studio Radio-Télévision Saint-Romain-Lamou, émettant depuis Kinshasa. L'autre actualité, c'est les groupes parlementaires qui ont été constitués à l'Assemblée nationale, et maintenant, c'est les commissions permanentes qui sont en cours de constitution.
Oui, d'abord par rapport à la revue de presse, peut-être parce que nous, on évolue dans la commune d'Ngaliema, bon, on peut appeler comme une malassitude. Peut-être que moi, j'ai toujours été un peu très sceptique à toutes les revues de presse qui ne reprennent que ce qui est officiel. Parce qu'entre-temps, ce qui est officiel, peut-être qu'on pouvait parler d'une école en Gabar qui n'a pas le tableau ni les bancs, peut-être qu'on pourrait parler d'un accident où on s'arrête plus au Parlement, au gouvernement, etc., présidence. Alors, je milite pour que nos revues de presse soient beaucoup plus populaires, c'est-à-dire entre guillemets, par plus du peuple, que de manière temporelle qui a réussi, ça c'est évident. Alors, mais pour parler de ce que vous avez dit, le groupe parlementaire, bon, mais ce qui est positif, toujours entre guillemets, c'est le retour de l'opposition. Et quand on sait le groupe parlementaire, ça signifie que les choses avancent normalement. C'est un bon signe pour cette législature
et pour la démocratie congolaise.
Peut-être qu'on va en parler.
Merci, Elon Mwamba. Vous êtes rédacteur en chef de la radio communautaire libre des Kolwezi au Katanga. Et qu'est-ce qui domine l'actualité dans cette ville du Katanga?
Merci, Timothée. C'est Léon Mwese. En fait, c'est les gens. On observe dans l'archive une série d'incidents et situations en Kolwezi. Les derniers en date, c'était le jeudi où il y a eu des morts et des blessés. On déplore l'excès de vitesse de la part des chauffeurs des taxis dans la ville de Kolwezi. Sur quelques acteurs de Kolwezi, vraiment, la population est affectée par les gens d'attitude de certains chauffeurs.
Merci. Notre premier point de ce soir, contentieux électoraux, plusieurs candidats déclarés élus par la Commission électorale nationale indépendante ont vu leur mandat invalidé au profit des autres. C'est donc 32 députés qui sont invalidés au profit des 32 autres. Ceci découle des arrêts de la Cour suprême de justice rendu public mercredi dernier. La Cour suprême de justice a rendu mercredi tard dans la nuit ses verdicts sur tous les recours introduits en contestation des résultats provisoires des législatives publiées par la CENI. 22 candidats déclarés élus par la Commission électorale nationale indépendante qui ont vu leur mandat invalidé au profit des 32 autres. Michel Kikinangoy pour les détails. Dans la province de l'Équateur, par exemple, la Cour a invalidé les mandats de certains députés qui avaient été déclarés provisoirement élus. Parmi ces invalidés, Jean-Claude Bayende, l'actuel gouverneur de l'Équateur. Au Nord Katanga, dans la circonscription de Kalemie, Ngoyi Mulunda Nyanga Emmanuel, déclaré élu par la CENI, vient d'être invalidé par la Cour. Il doit donc laisser le siège à l'honorable Vicky Katumwa, signalant que cette dernière n'avait pas introduit des recours en contestation des résultats à la Haute Cour. Bien évidemment, la Cour n'a pas seulement tenu compte des recours introduit dans le traitement des contentieux. À Kinshasa, dans la circonscription de Moamba, les députés Oscar Fidiamina, Serge Oué, Lombo Tamoto et Michel Kabeya ont vu leur mandat invalidé. L'invalidation des députés et la validation des autres sont aussi intervenues dans plusieurs autres circonscriptions du pays. C'est le cas de la circonscription de Kabaré au sud Kivu et à Funa à Kinshasa pour ne citer que cela. Quant à la requête de la CENI demandant à la Cour d'annuler les élections dans certaines circonscriptions, la Cour n'a annulé les élections que dans seule la circonscription de Massissi. Reste à la Cour suprême de justice de publier tous les résultats définitifs des élections législatives. De l'Angouli, enfin, la Cour suprême de justice a rendu ses arrêts. Et comment vous analysez ces différents arrêts?
Bien, à première vue, il semble avoir fait preuve d'une certaine indépendance. Lorsque nous voyons certaines personnes qui viennent d'être invalidées, c'est la puissance dont elles recèlent. Regardez le cas du gouverneur Bayende, à l'Équateur, qui vient d'être invalidé. Regardez le propre frère du pasteur Ngoyi Mulunda, qui vient de devenir le président de la CENI, qui est d'ailleurs son homonyme, presque parfait, vient d'être invalidé à Kalemie, et il a fallu quand même beaucoup de courage pour arriver là-bas à ce genre de décision. J'aimerais me relever aussi certains cas qui étaient, disons, les plus faciles à traiter pour rendre justice. Je pense ainsi au cas de Modeste Bahati à Tabaré, dans la mesure où les membres du personnel de la CENI, qui avaient été à la base des magouilles ayant permis l'élection à sa place de Madame Eliane Tabaré et Tawa, avaient été déférés à la justice par la CENI elle-même, jugés et condamnés et emprisonnés. À partir de ce moment-là, Bahati ne pouvait qu'avoir gain de cause dans la mesure où la CENI elle-même avait déféré ses propres agents devant la justice, devant les tribunaux pour magouille électorale. C'est le cas aussi avec une personne d'Edouard Kiakoumbouta, vous savez, à la CENI c'était public lorsque le travail de compilation avait été achevé. La CENI avait affiché les résultats de la Lukunga. Tout le monde est parti les lire et donc Kiakoumbouta n'était pas là. Une télévision de la place, Digital Congo, est arrivée et elle a filmé les résultats. Et au journal de 19h30, ils ont lu tous les noms qui étaient sur la liste. Et le lendemain, la CENI publie et Edouard Kiakoumbouta s'est inséré sur la liste, malheureusement. Alors, c'est ça qu'on va dire, excusez-nous, là, Kiakoumbouta vient d'entrer, c'est la seule différence qu'il y avait avec ce contexte que nous avons lu hier. Donc, on a rétabli la justice sur ce point-là. Relevons peut-être enfin qu'on n'a relevé aucune invalidation des députés de l'UDC. C'est quand même un cas formidable. Ce parti est officiellement le deuxième du pays, avec plus de 40 députés, et il n'y a aucun mal élu dans ses rangs.
Il se pense qu'il n'y a pas eu des recours
contre les... Ils n'ont fait aucun. Il y a eu quelques recours. J'ai toujours suivi à la Cour suprême de justice, il y a eu certains recours, mais il n'y a eu aucune invalidation. C'est quand même formidable. On peut supposer que c'est plutôt eux. S'ils avaient fait des recours, eux, ils auraient encore eu gain de cause. Ils ne l'ont pas fait, malheureusement.
Merci Paul Dacossé par ces arrêts. La Haute Cour vient de faire preuve d'une certaine indépendance, comme l'a dit Bellarmouy.
Et plus même, elle vient de se réhabiliter aux yeux de l'opinion. Parce que beaucoup de gens ne pensaient pas que la Cour suprême pouvait arriver à invalider 32 personnes. Peut-être que l'opposition a eu tort, une certaine partie de l'opposition a eu tort de négliger cette démarche. Si l'opposition était partie normalement à la Cour suprême, plusieurs votes seraient peut-être invalidés. Mais moi, permettons de faire quelques observations par rapport à cet arrêt de la Cour suprême. Nous constatons simplement que c'est un désaveu pour la CENI, parce que ça fait 10% de personnes invalidées. Et la plupart des dossiers qui étaient déposés n'étaient pas dans le fond mauvais, mais c'est simplement irrécevable au niveau de la forme. Donc, si tous les dossiers déposés au niveau de la Cour suprême étaient recevables, peut-être que le trois quarts qui peuple aujourd'hui, enfin le peuple, ne serait plus là. Et également, le propre frère du président de la CENI, et ça c'est révélateur d'un certain malaise et également d'une certaine négligence de la part de l'autorité de la CENI, hein, parce que il pouvait être plus regardant pour son frère, alors quand on se rend compte qu'il est passé pas trop proprement d'après la CENI, c'est pas une bonne note pour lui, ça ne fait qu'il enfonce davantage. Alors, du point de vue politique du maté, on constate qu'il y a deux députés de Palou qui sont évalués, donc Palou, c'est la descente aux enfers qui se confirme. Il vient de perdre deux députés, c'est que de moins en moins il va peser au niveau de la majorité présidentielle, comme allié. Également le MLC qui perd deux députés, ça signifie que le MLC descend aux enfers confirmé et il perd également du poids par rapport à l'UDPS. Et parmi les invalidés, il y a 8 au Katanga, 8 à l'Équateur, 7 à Kinshasa. Et si vous vous rappelez le cas des illégalités, c'est plus dans ces provinces-là que les illégalités. Et comme on sait que le Katanga, c'est la province d'origine chef de l'État et du président de la CENI, 10%, ça se voit rarement au monde qu'on ait une élection législative du matin.
Merci. Et Léon Mouindré, ces arrêts constituent, selon Paul Dacossé, un des arrêts pour la CENI. Vous partagez ce point de vue?
En fait, c'est celui de la position de la Cour suprême des justices. Nous sommes dans la deuxième législature, dans la seconde expérience de notre démocratie. Nous estimons que la Cour devra être déployée. La Cour suprême des justices a fait son travail parce que tous les partis politiques confondus qui ont été touchés par ces carrés, il y a ceux de l'opposition, il y a ceux de l'AMP. Donc, nous estimons que l'Assemblée nationale, où il y a des députés que nous honorons, doivent travailler en fait plus de l'équité.
Non, vous dites comment toutes ces décisions de la Cour suprême de justice ont été accueillies à Colosie?
À Colosie, on a dit avec beaucoup de satisfaction, hein, comme je l'ai dit tantôt là, mais nous sommes dans la phase de la démocratisation. À Colosie, on aimerait que les différences, il faut avoir des députés, vraiment qui sont des députés honorables. Donc, une satisfaction dans le milieu de Colosie pour la plupart des gens que nous avons côtoyés, donc c'était une bonne mesure. Donc, il faut vraiment que nous puissions avoir des députés dignes de son nom.
Et à Colosie, il y a des députés qui sont concernés par ces arrêts. Il y en a qui ont été invalidés et d'autres réhabilités.
Non, à Colosie, n'a pas été touché par les cas de réhabilitation des députés.
Parce que, merci beaucoup. Bélin Rambouilly, au vu de ces arrêts, on se rend compte que la majorité parlementaire se comporte davantage hein, sur les 32 députés validés, environ 24 sont de la majorité parlementaire. Comment vous analysez ça?
Bien, je n'ai pas fait les comptes pour voir équilibrer, voir parmi les validés, les invalidés, à quelle première partie un film. Mais lorsque je jette un premier coup d'œil, je me rends compte qu'il y a de nombreux membres de la majorité très ancienne qui sont invalidés. Et cela ne va pas changer foncièrement le rapport de force qu'il y a déjà au niveau de l'Assemblée. Mais je crois que le plus important, si nous voulons renforcer notre démocratisation, Paul Jacquet vient de le dire tout à l'heure, personne ne payera, donc personne n'hésite de ne pas payer. Non, il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. On doit nous expliquer. Moi, je suis habitant du district de Mohamba. Je veux savoir comment le candidat, je peux citer son nom parce que c'est public, le candidat révérend pasteur Kizani Akidia a 4600 quelques voix. La Cour suprême estime qu'il n'en a que 460, donc on a ajouté un zéro après son chiffre pour lui donner 4600 voix. Nous devons savoir qui a fait ça. Et lui-même, si possible, le poursuivre, le sanctionner, même par de la privation des droits civiques pour une ou deux élections futures. C'est pas normal. Et ça, c'est pour chaque cas. Vous savez, à Kabare, j'ai parlé tantôt du cas de Kabare, où le personnel de la CENI a été mis en prison. Il faut qu'on puisse suivre partout ailleurs qu'on sache qui a fait quoi pour qu'on arrive à de tels résultats. Regardez Malembankoulou. C'est tous les élus qui ont été validés. Tous les élus. On va garder comme ça le responsable de la CENI de Malembankoulou tranquille. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi un autre territoire, je crois, c'est Bongandanga à l'Équateur. Tous les élus ont été validés, tous. On va regarder les responsables de la CENI, tout le personnel là-bas. Non, mais c'est déjà à renvoyer, à traduire devant la justice.
Et donc, il ne faut pas communiquer à ces arrêts, il faut qu'il y ait
des poursuites judiciaires sanctionnées. Et les corrupteurs, c'est-à-dire ceux qui avaient été, parce qu'ils ne sont pas passés par des erreurs matérielles, non. C'est des gens qui ont forcément magouillé ce genre de bidouillage électoral. Il faut que tous ceux qui leur ont permis à réussir ce hold-up électoral puissent être également poursuivis et sanctionnés.
Pour le GPC, avec ces arrêts, les dés sont jetés, il n'y a plus de recours à faire, mais on se rappelle que la plupart des dossiers étaient déclarés recevables mais non fondés suite à l'absence de preuves, et par rapport à cela, beaucoup de candidats continuaient à soutenir le fait que la CENI refusait de donner notamment les PV à leurs témoins, les PV qui constituent des preuves irréfutables. Et vous pensez que cet argument a été pris en compte par la Cour suprême de justice?
Peut-être qu'on ne peut pas discuter parce que la décision de la justice, parce qu'on se dit la Cour suprême, c'est la Cour suprême, elle est parfaite, donc c'est la plus rendre ses arrêts, c'est que c'est juste, la Cour ne peut pas se tromper. Et nous, en tant que journaliste, on ne peut pas s'aventurer à critiquer la décision de la justice. Néanmoins, le vrai problème, c'est là, quand vous dites qu'il y avait des dossiers qui étaient non recevables, parce que la forme n'a pas été adéquate.
Déclarer non fondé,
parce qu'il y a absence de preuves. De preuves, tout à fait. C'est là où, quand j'avais dit que si jamais tout était recevable, peut-être que le Parlement, la Chambre basse serait vide, puisque lorsqu'on doit, comme l'a dit Bella, lorsque Malembankoulou, Bongandanga, on doit tout remettre à zéro, c'est que ça remet en question toute l'élection. Je pense qu'il n'y a pas d'alchimie sémantique à faire. Les irrégularités, c'est un terme pour connaître un peu de l'idée de son sens. on a peur de dire que les élections ont été bâclées. C'est que même si c'est lui qui est chargé des élections à Bongandang ou à Balemankou ou d'autres pays, mais c'est que c'est la configuration générale de la CENI, c'est la tête qui doit payer. Parce que si celui qui est de la CENI publie les résultats, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de contrôler. C'est un peu de. Je ne parle pas de l'irresponsabilité. Peut-être qu'ils avaient tellement de choses à faire qu'ils n'ont pas pu le contrôler. Donc ils doivent payer. Et je prends par exemple un cas. Même si la CENI paiera, il y a aussi des hommes qui doivent payer. Le gouverneur de l'Équateur. Jean-Claude Bayembe, tout gouverneur qu'il est. Alors, si on se rend compte que son élection n'a pas été correcte et qu'il vient d'être invalidé, je pense que proprement il est démissionné de là où il est.
Et vous pensez que tout le monde a été satisfait avec toutes ces personnes qui se sont senties lésées par les résultats publiés par la CENI? Ces personnes, on peut dire qu'elles ont tenu une cause à travers ces arrêts de la hausse cour.
Bon, ça peut être la question qu'il faut leur poser. Mais ce matin, j'ai suivi Kombouta qui n'est pas d'accord avec la Cour suprême. Mais la loi est dure, mais c'est la loi. On ne conteste pas la résolution, le décret de la Cour suprême. Il faut le prendre comme tel.
Léon Mamba, par ailleurs, la Cour suprême de justice n'a pas annulé les scrutins des différentes circonscriptions telles que souhaitées par la CENI, sauf le scrutin des Massissi au nord Kivu. Comment vous analysez cela?
En fait, dans les chefs de la Cour suprême de justice, hein, il y a eu une méthodologie. Je crois que là où on n'a pas annulé, c'est-à-dire les élections se sont déroulées comme il se doit. On a constaté peut-être quelques similarités, mais ce n'est pas important à ce qu'on puisse annuler les élections. Donc, c'était dans les chefs de la Cour suprême de justice qui fait son travail. Nous pensons qu'il a fait en toute honnêteté.
De l'Ambouy, la Cour suprême de justice n'a pas accédé à la demande de la CENI, selon laquelle elle devrait annuler les scrutins de certaines circonscriptions, sauf pour le territoire des Massissi au nord Kivu.
Oui, c'est exact. Bien, Massissi est un cas franchement particulier.
Pourquoi c'est particulier comparativement aux autres cas?
Il y a eu une intrusion de personnes membres de forces armées, anciens de certains mouvements politico-militaires qui sont introduits dans le jeu politique, qui ont forcé les gens à voter, qui ont bâclé le travail qui était fait là-bas. Et puis, Massissi n'a pas... C'est quand même incroyable de voir que les résultats tels qu'ils étaient affichés ne respectaient certainement pas certains équilibres notoires qui sont connus à Massissi. Vous savez, je ne veux peut-être pas rentrer dans les histoires ethniques ici dans le Nord Kivu. Cela porte, recèle une charge émotive particulière, c'est vrai. Mais lorsque nous regardons, et c'est vrai, ça c'est quand même vrai, nous regardons les élections de 2006. Sur les 6 élus du Massissi, il y avait 7 élus plus précisément, il y avait 3 Baoundé, il y avait un Tutsi, il y avait 3 Hutu, voyez-vous. Alors, avec les résultats tels qu'ils étaient affichés cette fois-ci, en 2011, il y avait 4 Hutus. Dans les Hutus, on fait passer leur représentation de 3 à 4. Il y avait un Tutsi, donc les Tutsis ont gardé leur représentation telle qu'elle. Et à la 6e place, il y avait un Mutembu. Il y a aussi des Batembu à Massissi. Les Baoundé, qui sont les premiers habitants de Massissi, comme on aime à dire autochtones, n'avaient pas de représentation. Et c'est le fait du bourrage des urnes, de la fraude massive, on peut se poser des questions. Était-ce le résultat d'une grande indiscipline? Parce qu'il semble qu'ils avaient aligné plus de la moitié des candidats, alors qu'ils sont déjà assez minoritaires. Bon, tout ça, c'est des questions qui se posent. Mais lorsqu'à Massissi, il n'y a pas un député Mouhoundé, ça fait forcément problème.
Et pour les questions, comment expliquer le fait qu'il n'y a qu'un Massissi dont les scrutins étaient annulés? Alors qu'ailleurs aussi, il y avait des cas flagrants qui pouvaient amener la haute cour à annuler le scrutin dans ces différents territoires.
Je ne sais pas. La Cour suprême peut donner cette réponse. Moi, je ne suis pas en mesure de le dire. Mais ce que nous voyons plus visible, c'est que, en général, lorsqu'il faut. Invalider 32 députés, j'ai dit 10%. Hein. Et, ça, c'est pas des trucs bêtes. ça prouve seulement que les élections n'ont pas été normales. Alors, j'ai fait une observation à propos du Castel oriental à Loggia. Il y a toujours un conflit au sein de la majorité présidentielle entre le ministre sortant de la communication Lambert Mendo Malanga et l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale Christophe Koutoundoula. Alors vous voyez ici le député élu de Christophe Koutoundoula MSDB a été invalidé au profit de député élu CCU de Mendo Malanga. Donc ça ne fera que raviver le conflit de deux partis au sein de la majorité. On ne souhaite pas que cela soit ainsi à l'OGIA, ces affrontements qui font peur souvent.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, 24 avril 1990, 24 avril 2012, cela fait 22 ans que le processus de démocratisation de la RDC avait été déclenché par le président Mobutu. 22 ans marqués par plusieurs événements politiques, notamment dans trois transitions. D'abord, celle de 7 ans sous Mobutu avec 8 premiers ministres. Ensuite, la transition avec Kabila père de 1997 à 2001. Et enfin, celle des Kabila fils, marquée par la formule 1 plus 4, vers les élections générales en 2006 pour mettre fin à la crise de légitimité. Le pays est à sa deuxième expérience avec les récentes élections présidentielles et législatives de novembre dernier. Dans la majorité, tout comme dans l'opposition, on s'accorde qu'il y a eu des ratés dans ces processus de démocratisation, mais chaque camp explique ces ratés de sa façon. Les détails avec Innocent Olinga.
Pour Christian Badibangi, le non-respect des acquis de la Conférence nationale souveraine par tous les régimes est l'un des principaux ratés.
Les Congolais n'ont connu que des ratés, parce qu'à de certains moments, nous avons constaté qu'on reculait des 4 pas au lieu d'avancer. Dommage que nous n'avons pas capitalisé complètement les processus démocratiques tels que cela a été initié par la Conférence nationale souveraine.
Par contre, pour Banza Mukalai, ancien de la mouvance présidentielle de Mobutu et actuellement membre de la majorité présidentielle des Kabila, ces ratés ont d'autres explications.
Les ratés, il y a d'abord eu des guerres. Il ne faut pas souhaiter la guerre parce que la guerre interrompt le processus démocratique. Les ratés, c'est aussi des contestations permanentes. Il y a des gens qui, en démocratie, ne s'avouent jamais vaincus. Je connais des gens qui n'ont fait que tout contester et qui voient des pièges en tout et pour tout. Il faut à un moment essayer de voir les choses d'une manière positive.
Voir les choses d'une façon positive, pour Banza Mukalai, c'est l'humilité et le réalisme, mais pour Christian Badibangi, c'est tout simplement le respect des tests juridiques.
Paul Diakessé, je rappelle que vous êtes directeur des communications studio radio-télévision Saint-Romain-Lamont en étant depuis Kinshasa. 22 ans de démocratie, quel bilan vous en faites?
Après, c'est difficile de tirer un bilan aujourd'hui de la démocratie congolaise. Ce n'est même pas un verre à moitié plein ou à moitié vide. Parce que la démocratie, c'est tout un processus. Il a fallu attendre 1789 en France pour voir la naissance d'un espace démocratique. Il a fallu 2 guerres mondiales en Europe pour que des nations démocratiques naissent. Il a fallu 2 guerres aux États-Unis pour avoir un État démocratique. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas un décret qui peut faire que le Congo devienne un État démocratique. Sauf que vous faites allusion au 24 avril, c'est vrai, cette date est une date qui a suscité plusieurs espoirs au chef de Congolais. Et malheureusement, ce qui a commencé le 24 avril a connu une crash. C'est-à-dire que la CNS a atterri, n'a pas bien atterri, c'était une crash, malheureusement, qui avait pour seule victime le peuple congolais. Donc, le peuple ne s'est plus retrouvé. Parce qu'en fait, la démocratie a comme fondation le peuple. Lorsque la démocratie naît, des constellables comme dialogue intercongolais 1 plus 4, ou qu'on puisse monter la CENI comme on l'a fait, ou qu'on puisse revoir la constitution au niveau du Parlement, là, le peuple est déconnecté de la démocratie. Alors, c'est difficile que ce soit ancré dans les esprits des Congolais. Alors c'est un peu ça, notre démocratie est née prématurément, ou c'était une naissance forcée. Voilà pourquoi ce processus sera tellement long pour le Congo. C'est pas parce qu'on a eu 2 élections. L'élection ne signifie pas que démocratie. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Les élections, on en connaît au Cameroun, on en connaît en Russie, en Arabie Saoudite, même il y a des élections. Même en Chine, il y a des élections pour l'Assemblée. Donc
c'est pas l'élection, c'est pas le seul élément de l'élection qui signifie la démocratie. Faudra-t-il aussi avoir la liberté d'expression? Faudra-t-il aussi que la justice soit indépendante? Et c'est là le combat du Maté. Aussi longtemps que la justice sera une justice appréciée à plusieurs vitesses, non acceptée par les uns et acceptée par les autres, ce sera très difficile pour qu'on puisse avoir la démocratie. C'est le combat de tout le temps. Le bilan à tirer, c'est trop prématuré pour tirer le bilan, car le processus est encore à son début. Mais le bilan, on ne le tirera pas. Ce sera un faux jugement si nous tirons le bilan de la démocratie en fonction des élections. L'élection n'est pas la démocratie.
L'élection n'est pas la démocratie, c'est ce que dit Paul de Kessé de Rambouini. Paul de Kessé dit aussi qu'il est difficile de faire un bilan parce qu'il s'agit d'un processus. Et je rappelle que vous êtes éditeur du journal de la Renaissance de la Nation, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Le pays, la RDC, a connu 3 transitions avant d'organiser ses premières élections en 2006. Et certains analystes pensent que cette longue période de transition se justifie par le fait que les Congolais n'étaient pas suffisamment préparés à la démocratie. Paul de Kessé a évoqué, il a parlé de la naissance forcée, il parle de la démocratie née prématurément.
Non, le peuple congolais était prêt pour la démocratie. Ce sont ces élites qui n'étaient pas prêts pour la démocratie, tout simplement. C'est ça le problème, il faut comprendre les choses comme ça. Vous remarquerez que le peuple est en avance par rapport à certains de ses dirigeants même, c'est ça le problème, voyez-vous. Eh bien, nous célébrons ce 24 janvier, le 22e anniversaire de l'ouverture du processus démocratique.
Le 24 avril.
Le 24 avril, puisqu'il y a eu lieu en 1990, lorsque le président Mobutu a fait le discours historique au cours duquel il a dit « comprenez mon émotion ». Il faut rappeler qu'il s'agit d'un jour mémorable, en fait. Parce que, vous savez, moi, je suis né Mobutu était déjà président de la République. J'ai grandi Mobutu était président de la République. Donc, nous n'avions qu'un seul identifiant, c'était Mobutu. Au point où, lorsque nous parlions des présidents des autres pays, nous disions, quand j'étais encore enfant, vous connaissez le Mobutu du Gabon, il a une petite taille. Donc, c'est un peu, nous avons grandi dans la Mobutité, pour emprunter le terme, c'est Sako Mbinongo, d'heureuse mémoire, si l'on peut dire. Donc, c'est cela. Donc, il y avait ce régime administrativement jacobin, politiquement dictatorial, sanguinaire et répressif que nous avons connu, privant les libertés, ces libertés, le peuple congolais tout entier pendant de longues décennies. Eh bien, le 24 avril, le président de la République, le tout puissant Maïssel Mobutu, se rend compte qu'il ne peut plus continuer à brimer tout un peuple. À l'infini, c'est impossible.
Parce qu'il était forcé par les circonstances, et du moment où c'était par son
il arrive justement. Pour arriver à cela, il a fallu qu'il y ait de la contestation à l'intérieur. Parce que les pressions internationales ne peuvent s'appuyer que sur une contestation intérieure déjà établie. Et cette contestation, nous devons la célébrer. C'est le combat principalement des prises parlementaires. C'est l'initiative du pays qui, en 1980, ont résolu d'écrire au Maïssel Mobutu une lettre incroyablement revendicative, lancer ce combat pour la démocratie au risque de leur vie. C'était terrible. Binyamin Mugaruka a dit quitter le pays, il est mort en exil à Londres. Makamba Mpinga est mort dans des conditions encore non existantes jusqu'à ce jour. Nous devons célébrer ces gens-là, ces 13 parlementaires. Est-ce que nous les célébrons aujourd'hui? Non. Nous célébrons le 17 mai. Qu'est-ce que nous célébrons le 17 mai? C'est quoi? C'est la victoire d'une agression étrangère conduite par le Rwanda, comprenant également le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, qui sont venus chasser un régime au pouvoir au Zaïre pour installer un autre dictateur à la place de Mobutu. Nous ne le célébrons pas. Et conséquence, nous, si nous voulons célébrer la victoire de l'agression qui nous a imposé encore une autre dictature, nous n'avons pas de démocratie au Congo aujourd'hui. Regardez, il y a un paravent démocratique, la poudre aux yeux qu'on jette à la figure des personnes. La démocratie est entendue comme la
le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et nous avons le pouvoir du peuple aujourd'hui. Outre le fait que ces élections qui viennent de se passer ont été totalement bâclées, nous n'avons pas tous ceux qui nous disent ont la légitimité pour le faire. Personne ne le sait avec exactitude. Mais regardons celle de 2006.
Mais quand vous savez que c'est peut-être qu'elle est votée.
C'est justement, Paul vient de dire que cela ne suffit pas. Car au Cameroun, il y a aussi des élections. Regardez, dans cette province, prenez l'Équateur, prenez le Bas-Congo, prenez le Kassai occidental, le Kassai oriental. Comment la population a voté en 2006? Et ils ont quel gouverneur? La population donne une majorité de façon claire à une famille politique donnée. Par des magouilles, la corruption, le bidouillage, on fait tout pour lui opposer un gouverneur d'une autre standard. Conséquence, regardez, à l'Équateur, l'homme qu'on a imposé comme gouverneur, il a échoué à une élection législative. C'est vous dire combien il a été désavoué par la population. Prenez le Kassai occidental. Le gouverneur qui a mis 4 ans, Trésor Kapoukou, n'a même pas eu 1200 voix. Celui qui l'a remplacé, à peine 1300 voix. C'est vous dire que, et on fait tout pour que ça demeure ainsi.
Et donc, si on peut relever certaines lacunes de cette démocratie, et cela ne serait pas l'effet de la population, mais plutôt de la
classe politique. De la classe politique, d'une certaine classe politique, d'une famille politique bien clairement identifiée. Et ce n'est pas que le seul problème, mais aussi le problème sur le plan institutionnel. On est arrivé, laisse-moi finir par là, on est arrivé, et là ça c'est l'erreur de tous ceux qui ont été dans le 1+4, on est arrivé à inscrire dans la Constitution que l'on peut mettre côté des députés chefs coutumiers qui peuvent arriver à renverser une majorité telle que la population l'a voulu à l'Assemblée d'une province donnée. Ce n'est pas acceptable. Lorsque vous avez des pouvoirs héréditaires comme chefs coutumiers, c'est pour eux une chambre de lords comme en Grande-Bretagne, ils ont devant consultatif, ça s'arrête là.
Merci Léon Moinzé, rédacteur à chef de la radio communautaire libre des Kolwezi au Katanga. Et l'opposition pense que certains principes qui fondent la démocratie ne sont pas pris en compte. Hein. C'est par exemple les droits des manifestations. Et ces droits semblent être reconnus lorsque la manifestation est organisée par les partis politiques du pouvoir. Mais lorsque c'est les opposants qui organisent ces manifestations, et souvent ils sont réprimés.
Il faut souligner que, quand même en dehors des formes, qu'il y a eu des avancées significatives. Hein. Cette élection, je savais tout d'abord les 15 parlementaires. Les 15 parlementaires qui ont quand même eu le courage juste à forger ce que la démocratie existait réellement. En dehors des formes, il y a quand même des avancées significatives. Mais le chemin à courir hein, est encore long dans notre pays. Pour le moment, nous constatons qu'il y a la liberté d'expression, les réseaux sociaux, les médias. Nous sentons que quand même des avancées, mais le chemin à parcourir, est encore long. Nous devons faire tous un effort, nous devons continuer l'effort. Tout le monde pour qu'il y ait réellement la démocratie dans notre pays. Il faut souligner aussi hein, qu'en dehors de ça, il faut aussi le respect du calendrier électoral, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que la présidence et l'Assemblée nationale qui sont légitimes. Il y a encore beaucoup de discussions qu'il faut légitimer. Voilà, je souhaite à partir, nous pensons que nous devons tous conjuguer l'effort, nous devons tous conjuguer pour que la démocratie existe réellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que j'ai dit tout à l'heure que nous avons constaté qu'à partir des statistiques où les acteurs politiques s'étaient rassemblés, on a senti quand même les efforts. Et au pays, tout ce qui était sécurisé ou pas, aujourd'hui, ça se dit tout haut parce qu'à l'époque du Maréchal Mobutu, on ne sait pas adorer toutes les manifestations. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a des manifestations, quand même certaines sont fermées, mais il y a des avancées.
Merci pour la question. Léon Moinzier évoque certaines avancées, hein, notamment la liberté d'expression. Il parle aussi de la liberté des manifestés. Je lui ai posé une question, vous l'avez suivi. Les opposants disent que ce principe n'est pas démise parce que lorsque c'est les partis du pouvoir qui organisent une manifestation, eh bien, tout se passe tout naturellement. Mais lorsque c'est l'opposition, on interdit ce genre de manifestation. Comment vous analysez cela?
Peut-être que ce ne sont pas les opposants qui vont donner la leçon de la gestion démocratique, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient des opposants. Et peut-être que ceux qui sont de l'opposition en matière seront pires que ceux qui sont là aujourd'hui. Nous, nous sommes journalistes, nous sommes ni de l'opposition ni du pouvoir, nous analysons les faits. Ce n'est pas la présence de beaucoup de médias aussi qui signifie la démocratie, pourvu que ces médias soient libres. Mais malheureusement, on assiste aux fermetures de médias sans appel et pendant des moments difficiles. On ne peut pas émettre notre son de cloche. Ce n'est pas aussi la présence, lorsqu'on dit des manifestations. Quelles manifestations? Parce que les manifestations, plusieurs fois, on voit le gaz lacrymogène lorsqu'on réprime ceux qui ne partagent pas le même point de vue que ceux qui ont l'impérium. Mais également, j'ai entendu ici deux fois les pièces parlementaires. Et c'est bien beau d'évoquer ces héros de pièces parlementaires, ceux qui sont déjà morts. Mais il y a un qui est encore en vie, mais qui n'a pas la liberté de circuler. Voilà encore un indice qui prouve que la démocratie n'est pas encore ancrée chez nous et que c'est un sommet qui est très long. Nous sommes encore au début de ce sommet-là. C'est comme ça que moi, je ne m'adhérerai pas à faire le bilan, parce qu'on fait le bilan de quelque chose qui a existé, qui a fait son temps. Or, ça n'a pas encore fait son temps.
Benamoui, dans son dernier rapport, l'ONG de défense des droits de l'homme, l'ASADO, accuse l'Assemblée nationale et le Sénat d'avoir été complaisants, voire très complaisants à l'égard du gouvernement.
Exactement, et cela saute aux yeux. Mais, regardez, dès notre premier numéro que nous avons lancé sur le marché, nous avons sorti un dossier terrible sur le détournement qu'il y a eu dans une entreprise de la France, une entreprise de l'État de la France. Et qu'est-ce que le patron de cette entreprise a fait? Il nous a envoyé des documents pour se disculper. Et les documents, en fait, ne faisaient que l'enfoncer davantage parce que il a dit non, je sais qu'ils se sont rendus coupables de ce vol, voilà ce que j'ai fait, je les ai sanctionnés pour une mise à pied de 15 jours. La ministre du portefeuille m'a bunda, le portefeuille a dit jamais, ça ne peut pas se faire comme ça. C'est la rigolade, ça. Enfin, et ça, l'Assemblée nationale n'a jamais bougé un seul doigt.
Et donc, ça, c'est l'un des indices qui montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui, ce n'est pas un seul indice qui a la plaie, la répression des manifestations. Il n'y a jamais eu de manifestation libre dans ce pays depuis toutes les 5 années dernières. Si c'était moi, une seule manifestation de l'UDP, si Dieu me mettait dans ce pays, il n'y en a pas eu. Tout ont été brûlés. Et on a même pourchassé le 16 février des chrétiens dans des églises, dans toutes les églises, c'est ça.
Donc la démocratie est encore un long chemin.
Elle n'existe même pas encore, il faut l'établir.
Merci, c'est la fin de cette émission. Eric Kougatala était à la technique, Alain Hiron à la réalisation, sous la supervision de Ben Kabamba, devant ce micro, Zimaté. Merci et bon suite du programme sur Radio Kapi. Thank you.